saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
La réalité est une suite de coups de théâtre. Certains heurtent avec virulence les planchers de bois où se tiennent les spectacles, ce qui fait que du réel à la fiction et de la fiction au réel, les allers-retours sont possibles. Par exemple, le 11 avril dernier, voici ce qui se passait dans le monde tel qu'il va.
Ici, à Londres, certes, le dossier du Brexit agite les esprits, mais la capitale britannique a connu hier un événement qui a fait, dirons-nous, sensation, l'arrestation de Julian Assange. Julian Assange, c'est donc le fondateur de Wikileaks, ce site qui s'est fait connaître pour avoir fait fuiter des documents diplomatiques confidentiels à l'échelle internationale. Au nom de la transparence, Julian Assange était poursuivi depuis des années par la justice américaine. Pourquoi cette arrestation est-elle survenue hier et qu'augure-t-elle pour les lanceurs d'alerte?
Le 11 avril dernier, Julian Assange était effectivement arrêté à Londres. Quelques jours plus tard, le 16 avril, le Parlement européen adopte une directive protégeant les lanceurs d'alerte. Quel rapport avec le théâtre? Il y en a un, et c'est au Théâtre Europe Odéon à Paris qu'il se manifeste en ce moment même.
Cet établissement thermal qu'on nomme le centre nerveux de la ville, son centre vital, et je sais, le diable c'est quoi encore là.
Le cœur battant de la ville, le cœur battant de la ville.
Vous savez ce que c'est? En réalité, ce grand, ce magnifique établissement thermal tellement vanté et qui a coûté si cher, vous savez ce que c'est?
Non, et qu'est-ce que c'est?
Les bains entiers sont un puits de pestilence.
Bien avant que n'existe Julian Assange, en 1882, un auteur norvégien, Henrik Ibsen, publie une pièce qui s'intitule « Un ennemi du peuple ». Dans cette pièce, le héros Thomas Stockmann, interprété, on vient de l'entendre, par le comédien Nicolas Bouchaud, dénonce la contamination des eaux de sa ville. Et ce héros préfigure en fait celles et ceux qu'on appelle désormais les lanceurs d'alerte.
Le pire ennemi de la vérité et de la liberté dans la société.
C'est qui alors? Donnez-le nom.
Je peux le dire. C'est la majorité compacte. C'est la satanée compacte majorité. C'est elle qui constitue le plus grand danger.
Le président demande à l'orateur de retirer ses propos.
Non.
Inconsidérés.
Je confirme à cette scène. C'est la majorité qui nous prive, qui me prive de ma liberté. C'est elle qui m'empêche de dire la vérité.
Mais la majorité, elle a toujours le droit pour elle. La vérité aussi.
Non, la majorité n'a jamais le droit pour elle. Ça, c'est un mensonge contre lequel un homme libre et qui pense doit se révolter. Qui forme la majorité dans le pays? C'est les gens intelligents ou les imbéciles? Nous sommes tous d'accord pour dire que les imbéciles forment une majorité écrasante sur cette terre. Mais c'est parfaitement injuste que les imbéciles règnent sur les intelligents.
Excusez-moi, mais là, vous méprisez le peuple. Moi, je suis fils de paysan et je suis fier d'appartenir à ce peuple que l'on méprise ici. Réactionnaire.
Vous êtes réactionnaire, vous pouvez crier plus fort que moi, mais vous ne pouvez pas me contredire. La majorité a le pouvoir, malheureusement, mais elle n'a pas raison. C'est moi qui ai raison. Moi et quelques autres hommes isolés. La minorité a toujours raison.
Théâtre éclaire le réel. Il peut éclairer le réel parce qu'il prend le temps de la nuance, du détail et de l'analyse. Dans Un ennemi du peuple, l'héroïsme et l'extrémisme se percutent de plein fouet. Être lanceur d'alerte, c'est bien, à condition toutefois que le courage et la vertu ne deviennent pas une menace absolument irraisonnée. Que nous dit Ibsen du parcours de Thomas Stockmann? Que nous apprend-il du comportement des témoins? Dans le spectacle proposé à l'Odéon, personne, absolument personne, n'est exemplaire. Nous allons en parler avec le metteur en scène de la pièce. Il est ici avec nous, Jean-François Civadier. Vous êtes bien dans Une saison au théâtre et nous sommes là jusqu'à 16h. Bienvenue à vous. Et bonjour Jean-François Civadier.
Bonjour.
Alors vous mettez donc en scène à Paris, au Théâtre de l'Odéon, cette pièce de l'auteur norvégien Ibsen, Un ennemi du peuple. dans laquelle un médecin veut dénoncer la contamination des eaux de la ville qu'il a contribué à bâtir avec son frère, qui est le préfet de la ville. Évidemment, s'il passe à l'acte, la ville, qui est une ville thermale, va être économiquement ruinée. Comment Thomas Stockmann, le héros, devient-il peu à peu un ennemi du peuple sous la plume d'Ibsen? Comment passe-t-il du statut de lanceur d'alerte, héroïque, valeureux, courageux, vertueux, à celui d'ennemi du peuple?
Le coup de maître de d'Ibsen, c'est d'avoir fait quelqu'un, d'avoir fait Stockmann, un petit provincial comme ça, un petit médecin de province, un homme de la société civile qui a aucun passé politique, aucune conscience politique. Donc c'est loin d'être un révolutionnaire et il se lance comme ça dans la bataille, c'est-à-dire il répond un peu par orgueil, aux sirènes que lui font miroiter le rédacteur du journal local, etc. Mais au moment où il doit prendre la parole pour rallier toute la population de la ville à sa cause, il pète un câble parce qu'il n'est absolument pas prêt politiquement à tenir son combat, un combat légitime, et à poser les bonnes questions. En l'occurrence, ce qui est très curieux dans la pièce, c'est que la vraie question que devrait poser Thomas Stockmann, c'est pourquoi ce ne sont pas les actionnaires qui payent les travaux
de rénovation
des bains. Et le préfet, son frère, lui dit « Mais de toute façon, j'ai déjà demandé aux actionnaires, ils peuvent pas. » Donc la question est réglée en deux répliques. C'est quand même un gag, ça peut nous faire penser à des situations qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai remis à l'acte 4 cette réplique dite par la fille de Thomas Stockmann qui dit à son oncle le préfet « Mais faites payer les actionnaires, c'est eux qui doivent payer. » Et à ce moment-là de la pièce, on est très loin des questions réalistes, en réalité. On a complètement dépassé le sujet initial de la pièce, qui est l'écologie. On a complètement dépassé
basculé dans autre chose. Oui. Je voudrais qu'on parle du rôle des femmes, justement, de la place occupée par les femmes dans cette pièce d'Ibsen. Donc, il y a sa fille, Petra, qui est interprétée par Jeanne Lepers. Et il y a son épouse, Catherine, qui est interprétée magnifiquement par Agnès Sourdillon. Est-ce que les femmes, dans la façon dont Ibsen les fait avancer, ont un rôle un peu plus moderniste, j'ai envie de dire, que les hommes?
Ça, c'est vraiment un mystère pour moi, par rapport à cette pièce. Je comprends pas comment il a pu mettre les femmes à ce point de côté dans cette pièce, alors qu'il avait quand même écrit Hedda Gabler, Les Revenants, Maison de Poupée, etc. Mais en fait, par exemple, ce qui est intéressant, c'est la manière dont s'exprime la misogynie de Stockmann dans la pièce, et aussi le fait que, par exemple, il ne se souvienne jamais du nom de sa bonne. C'est vraiment un signe, ça le discrédite complètement aux yeux du public, en fait. C'est quelqu'un qui est aussi peu soucieux des intérêts de sa femme, aussi peu qu'il arrange dans un placard dès qu'il en a plus besoin, ça le discrédite immédiatement. Les gens se marrent quand il lui dit « va t'occuper de ta cuisine et laisse-moi m'occuper de la société », etc. Parce que c'est énorme, c'est trop. Mais même à la fin du 19e, je pense. Donc voilà, et d'ailleurs ce qui était délicat pour les deux comédiennes, c'est de trouver le plaisir dans cet espace assez réduit, où en même temps, elles sont pas exemptes du ridicule qui frappe tous les autres personnages de la pièce. Et il y a quand même une parole qui s'affirme dans le peu de répliques que Catherine Stockmann a dans la pièce. Il y a quand même une certaine position. Et puis lui, Stockmann, il est comme un petit garçon par rapport à elle. C'est-à-dire, toutes les 5 minutes, il vient quand même lui demander son avis.
Il la consulte.
Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression que Ibsen, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a quand on voit la représentation, Jean-François Civadier, que Ibsen évite de nous enfermer dans le jugement a priori, dans lequel le réel nous précipite, qui serait, il y aurait d'un côté les bons, de l'autre les méchants, d'un côté les victimes, de l'autre les bourreaux, d'un côté le bien, et de l'autre le mal. Il évite complètement cette binarité. Comment fait-il?
Je sais pas s'il l'évite complètement, en fait. C'est-à-dire, ça c'est super. Mais j'en parlais avec quelqu'un hier. Moi, quand j'ai lu la pièce, je la trouvais un peu manichéenne, et je me disais, ah merde, le côté quand même tous pourris et tout ça, faut faire attention, etc. Et en fait, hier, quelqu'un me disait, mais pas du tout, la pièce, elle est pas du tout manichéenne, et je me demandais si, par le biais de la représentation, s'il n'y avait pas, dans le fait que ça s'humanise par le corps, la voix des acteurs, etc., s'il n'y avait pas une ambiguïté qui arrivait, justement, et qui rendait la pièce beaucoup plus complexe parce qu'elle était incarnée par des acteurs. Et je pense effectivement qu'il y a quelque chose comme ça. Alors évidemment, la pièce, elle est extrêmement directe. Hein. Elle n'est pas très complexe en réalité. Dans sa fable, c'est vraiment la plus limpide d'Ibsen. Elle est très drôle. Il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de retour au passé, etc. Elle est vraiment totalement ouvertement politique, elle est presque comme un manifeste. Donc on a tendance à voir assez vite les bons et les méchants. Et effectivement.
Oui, mais ça se trouble, ça se brouille, voilà. Tout ça.
Mais ça
c'est ça qui est bien avec le théâtre, ouais. C'est que ce qui est donné pour limpide au début s'opacifie de plus en plus. Et qu'on est entraîné dans des réflexions, des raisonnements. On n'a pas forcément les réponses aux questions qu'on se pose, Jean-François Sylvadier.
Mais nous, on a vraiment insisté pour, et essayer vraiment dans le travail de pas faire du tout de Stockman un héros puis une victime, et de pas faire de son frère le préfet le grand méchant loup de l'histoire. Voilà, le préfet, il est absolument sûr de son droit, de ses convictions. Il pense vraiment que son frère en fait des caisses et que, voilà, il faut être beaucoup plus pragmatique que ça. Et donc, on a vraiment, effectivement, accentué cette ambiguïté-là.
Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols ? La réponse est non.
Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là ? On entend ce matin que...
La tristesse.
La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Voilà, vous vous souvenez comme moi, j'imagine, Jean-François Sylvadier, de cette intervention de Nicolas Hulot,
le
28 août 2018 au micro de France Inter, dans la matinale. On se dit que finalement... Si Nicolas Hulot avait lu, peut-être l'a-t-il fait d'ailleurs, un ennemi du peuple, et s'il avait vu les cartes être posées, être battues et rebattues, peut-être que sa décision aurait été changée, sa décision de quitter le gouvernement, parce que quand même, c'est édifiant ce que raconte Ibsen de mise à plat, mise à jour de toutes les manipulations, de toutes les tentations qu'on peut avoir individualiste, et de ce combat entre l'intérêt général et l'aspiration à la vérité.
Bah, de toute façon, Nicolas Hulot, il le savait très bien, tout ça. C'est pour ça qu'il est parti. Et ce qui est magnifique dans son émotion, c'est de sentir toute l'impuissance. Et alors après, évidemment, il y a ce départ de son départ du gouvernement. Et évidemment, après, tout le monde lui tombe dessus en disant, oui, mais peut-être qu'en fait, lui, il est pas si clair que ça, etc. C'est-à-dire qu'on, tout de suite, immédiatement, on s'attaque à la personne au lieu de s'attaquer au sujet qu'il dénonce. C'est toujours pareil, mais Assange, c'est un peu la même question. C'est-à-dire
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jean-François Sylvadier? De quelle manière ça rejoint le propos d'Ibsen?
Dans Ibsen, il y a très clairement un moment donné où le frère, le préfet, dit à Thomas Stockman, le problème c'est toi. C'est que tu ne supportes pas l'autorité, il faut toujours que tu trouves un truc. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au lanceur d'alerte et on occulte la gravité de son message. C'est ça qui est très grave, en fait. C'est que mais avec Nicolas Hulot, d'une certaine manière, c'est pareil. On s'est beaucoup trop occupé de Nicolas Hulot et pas assez de ce qu'il était en train de dire. Et c'est stupéfiant comment on arrive à créer le buzz autour d'une personne qui est en train de dénoncer quelque chose. Et on regarde la personne et on regarde pas ce qu'il a dénoncé. C'est comme, voilà, je parlais aux comédiens l'autre jour de cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, qui a pris la parole à la COP24.
Une très jeune femme, très jeune fille.
On peut pas l'accuser, franchement, quand on la voit arriver, d'être une espèce de grande manipulatrice. Et pourtant, au bout d'un moment, on commence à dire « Non, mais en fait, elle est un peu autiste, mais en fait, elle travaille pour machin, en fait, c'est pas si clair que ça, etc. » Alors que elle, voilà, donc je suis frappé de cette manière, cette irrépressible envie de tout à coup aller sur la personne au lieu d'écouter ce qu'il dit, quoi.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
I know just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something.
Donc si je vous entends bien, Jean-François Sibadier, il y a une mécanique qui est mise en place, qui est installée par Ibsen et qui est toujours la même finalement, qui n'a pas bougé. Hein. On discrédite au fond la personne pour discréditer son combat. On s'attache à un pan privé de la personne pour que son combat, la nature de son combat n'apparaisse pas.
Oui, en tout cas ça c'est ce qu'on voit dans la réalité aujourd'hui et c'est ce qui se passe effectivement dans la pièce d'Ibsen.
Alors ce qui est génial dans le dispositif mis en place par Ibsen, c'est la place des protagonistes, la place symbolique que chacun occupe. Je voudrais qu'on en parle. Ce frère, qui est le frère, qui est préfet de police, donc intérêt familial, conflit fraternel. Le journaliste, qui est directeur d'un journal qui s'appelle Le Messager du Peuple, dont on ne sait pas, enfin, qui est visiblement un journal, ça serait quoi, Mediapart aujourd'hui, peut-être, ou Canard Enchaîné, on ne sait pas trop. Le représentant des petits bourgeois, personnage mi-progressiste, mi-totalement réactionnaire, et puis un anarchiste, croit-on, et un marin qui passe par là et qui, lui, a une opinion tangente. Tangente
qui est
pas
un peu l'opinion d'Ibsen, d'ailleurs, parce qu'au départ, il dit « Moi, je me mêle pas de politique, ça m'intéresse absolument pas. » En fait, Ibsen ne croit absolument pas en la politique, en la puissance de la politique. Il croit absolument pas dans le désintéressement et il a absolument pas confiance dans les hommes de pouvoir, quels qu'ils soient. Et il est, la pièce est quand même une espèce de coup de poing destructeur sur... comme il fait d'habitude, il vient poser des bombes, exploser le cadre et dire de toute façon, rien ne marchera.
Voilà. Mais pourquoi il est comme ça, Ibsen ? Pourquoi il est dans cette noirceur-là, ce pessimisme-là, sur la conscience politique d'un pays, en l'occurrence le sien, la Norvège ?
C'est un mystère. Ben, peut-être qu'il a déjà des bonnes raisons, quand même, à cette époque-là. Mais après, ce qui le rend un petit peu moins sympathique, c'est que quand même, il tient des propos, par exemple, dans le quatrième acte, Stockmann tient des propos d'Ibsen qui sont vraiment ce que devait penser Ibsen, c'est-à-dire assez réactionnaire, voire plus. Et qu'il écrit l'ennemi du peuple depuis Rome, où il s'est mis en exil. Voilà, il regarde son pays et c'est même pas qu'il fait la leçon à la société norvégienne. Il les injurie de là où il est, depuis sa tour d'ivoire. Et en même temps, il mouille pas la chemise. C'est-à-dire qu'il propose aucun programme, il a aucun projet politique, il n'apporte aucune solution. Il vient simplement provoquer du scandale. Mais c'est quand même un auteur des génies, dont on dit beaucoup de gens disent que c'est l'inventeur du théâtre moderne, et pour cause, il a quand même, par exemple dans cette pièce, montré des questions dont on a aujourd'hui toujours pas les réponses. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on n'arrive pas à se déterminer durant la représentation, et je le dis aux auditeurs, s'il y a un spectacle à voir actuellement, c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a un moment où vous pensez que Stockmann est tenté de renoncer ? Il y a des petits moments, des petits éclats dans le spectacle où on le sent un petit peu hésitant, où on sent qu'il dit « bon allez, j'arrête, je lâche l'affaire, je vais me ruiner, ma femme et n'est pas d'accord avec moi, mon frère est foudrage ». On le sent par moments un peu hésitant.
Ce que vous dites, parce que effectivement, ça correspond très précisément à des questions sur la famille. C'est-à-dire, il n'a pas vraiment envie de se fâcher avec son frère et il n'a pas vraiment envie de foutre sa famille sur le trottoir. Il ne serait pas sur le trottoir, mais enfin de ruiner sa famille et de se faire renvoyer des bains. Il tient énormément à son confort. Et puis, il y a surtout quand même cette chose de la famille chez Ibsen. C'est vraiment récurrent et c'est très important. Ça a bien sûr à voir avec la tragédie grecque. Il y a une phrase de Michel Meyer que j'adore qui est le drame ibsénien. C'est la tragédie grecque qui se démocratise et qui vient frapper la famille bourgeoise. Entre les deux frères, il y a vraiment, on croirait voir à certains moments, Atrée et Thieste ou Éthéocle et Polynice, il y a une haine ou un amour entre eux énorme et on ne sait pas du tout d'où ça vient. Ibsen ne nous l'explique absolument pas. Donc c'est comme deux titans qui s'affrontent, même si c'est dans un petit salon bourgeois, mais il y a quand même cette chose extrêmement violente. Et effectivement, à plein de moments, il pourrait changer de direction, c'est-à-dire qu'il pourrait renoncer,
Et alors dans ce dispositif tragique, est-ce qu'on peut pas dire que le beau-père, c'est-à-dire le père de la femme de Stockmann, de Catherine Stockmann, est au fond le dieu qui tire les ficelles ? Parce qu'on apprend de cet homme que si la ville est contaminée, c'est à cause de lui, c'est à cause de son entreprise qui a effectivement déversé ce qu'il ne fallait pas dans la tuyauterie de cette ville thermale.
Jean-François c'est un peu le diable, d'ailleurs, il le dit à la fin, vous êtes le diable, etc. Alors, lui, il est responsable de la pollution, mais le préfet est responsable de n'avoir pas écouté Stockmann, le docteur Stockmann, au moment de la construction des bains, puisque Thomas Stockmann disait qu'il fallait faire attention justement aux éventuels risques de pollution et tout ça, et le préfet n'a rien voulu entendre, peut-être que parce que ça coûtait trop cher ou je sais pas quoi, il a pas voulu. Voilà. Donc le préfet porte une part de responsabilité dans la catastrophe sanitaire de l'histoire, donc ça complexifie encore un petit peu, mais voilà, après vous avez raison, le diable, la figure un peu fantastique d'ailleurs de Morten Kiel, c'est le diable, le pollueur, c'est même une bactérie lui-même d'une certaine manière, hein. C'est pour ça qu'on en a fait une espèce de clown un peu terrifiant et détaché de tout.
En 2012, Thomas Ostermeyer, metteur en scène allemand, travaillait lui aussi à Avignon et proposait sa version d'un ennemi du peuple. Voici ce qu'il disait des premières représentations de son spectacle en public.
Moi, j'ai fait toujours le choix de prendre très très sérieux les conflits, les personnages, les situations. Et ça fait toujours que quand il y a la première fois, les spectateurs dans la salle, ils rigolent la plupart de la représentation. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec l'ennemi du peuple. La semaine dernière, on a fait deux filages avec public. Et on était pas mal choqués parce qu'on croyait d'avoir fait une tragédie. Mais parce que on a pris tout ça si sérieux, le public rigole. Mais c'est plutôt un rire qui s'est produit un peu dans la façon parce qu'il reconnaît quelque chose sur scène. Alors c'est pas forcément une comédie, c'est plutôt quelque chose assez déprimant qu'on veut éviter avec le rire.
Voilà, rire pour ne pas déprimer, constaté Thomas Ostermeyer, ça rit beaucoup à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Vous l'analysez comment, vous, Jean-François Civadier, le rire que suscite votre version à vous, votre représentation d'un ennemi du peuple?
Par exemple, déjà, ce que dit Thomas Ostermeyer, c'est intéressant parce que quand il dit on a pensé monter une tragédie et les gens riaient beaucoup, effectivement, moi j'ai vu son spectacle que j'ai beaucoup aimé. Et ça prouve en fait cette chose-là que Ibsen lui-même a énormément d'humour. Mais même dans les drames les plus noirs, même dans Les Revenants, dans Hedda Gabler, il y a vraiment une espèce de trop-plein. Et lui, je pense qu'il s'amuse énormément, Ibsen, avec le théâtre. Voilà, nous, on a été extrêmement surpris à la première à Grenoble, quand les gens se marraient vraiment dès le début et tout ça. Je me suis demandé, mais pourquoi c'est d'où vient ce rire? Et puis, je me suis dit, tiens, en fait, c'est une espèce de catharsis de tout. La pièce, elle cristallise tellement, elle compresse tellement toutes nos angoisses aujourd'hui face à tous les dérèglements qu'on subit. Du point de vue économique, écologique, politique, social, etc. C'est tellement trop que ça provoque un rire nerveux et en voyant des choses qui nous font par ailleurs trembler, quoi. Voilà. Donc,
qui glace un peu d'effroi, parce que on peut repenser à ce que cet extrait qu'on a écouté en tout début d'émission, quand Stockmann dit la majorité compacte, ça ne passe rien, c'est juste des imbéciles, seule la minorité a raison.
À certains moments, on a l'impression qu'on monte le son de ce qu'il pourrait y avoir dans le cerveau, la tête de certaines personnes qui nous dirigent.
À un moment donné, vous vous retournez vers le public et vous prenez le public à partie. Vous le prenez à témoin. Ça pose la question quand même, ce spectacle, cette pièce d'Ibsen, pose la question de ce que c'est effectivement un public. Et au-delà du public, qu'est-ce que c'est un peuple? Et au-delà du peuple, qu'est-ce que ce sont des citoyens? Et ainsi de suite. Quelles sont aujourd'hui les libertés de pensée, les libertés de s'insurger d'un peuple, de citoyens et d'un public?
C'est une grande question, ça.
Elle est posée par votre représentation, Jean-François Civadier. Donc,
c'est marrant parce que l'autre jour, il y a une spectatrice samedi dernier, on n'avait vraiment jamais vécu ça avec cette pièce, qui à un moment donné a apostrophé Nicolas.
J'ai envie de dire tant mieux, c'est bien, non?
Mais nous, on était très contents.
Mais oui.
On avait un petit peu peur parce qu'on se disait, ah tiens, comment on va pouvoir reprendre ça? Mais en même temps, on s'exposait complètement à cette chose-là. Enfin, donc c'était un peu nous rendre la monnaie de notre pièce et c'était assez agréable. Bon, elle a attaqué Nicolas Bouchot sur le fait qu'il avait dit flashball. Dans cette phrase de Gunther Anders, magnifique, qui est, ça sert à rien de donner des petites fleurs aux CRS, puisque de toute façon ils pourront pas les prendre puisqu'ils ont leur matraque à la main. Et Nicolas a remplacé depuis quelques
Nicolas
temps
Bouchot.
Matraque par flashball. Et cette dame a visiblement tiqué sur le mot flashball et elle a commencé par dire « on peut pas comme ça politiser le théâtre ». C'est d'abord ce qu'elle a dit. À mon avis, en disant ça, elle s'est un peu discréditée elle-même tout de suite aux yeux du public, puisque quand même la pièce, c'est quand même une pièce un peu politique. Et ensuite, tout de suite après, elle a dit « non mais il faut pas toucher au classique ». Enfin voilà. Donc, en fait, elle se sentait assez bien, je pense, parce qu'elle c'était assez courageux ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas spécialement l'impression de détruire la représentation, mais elle était plutôt assez épanouie dans sa contestation et elle parlait et elle empêchait le spectacle de reprendre. À un moment donné, elle s'est un peu calmée puisque Sharif Andoura, qui joue Hofstadt, lui a dit « vous avez raison madame, je suis d'accord avec vous, il est odieux, etc. » Donc toute la salle s'est marrée, etc.
Hofstadt, c'est le rédacteur en chef du journal dans le spectacle, dans la pièce.
Mais effectivement, c'est toujours très complexe cette histoire au théâtre du partage entre la scène et la salle, donc de la place du spectateur.
Mais vous en avez envie, vous, Jean-François Civadier, parce que vous êtes un metteur en scène qui, dans la plupart des spectacles que vous avez mis en scène, allait titiller le public.
Mais franchement,
les acteurs sont dans la salle, ils arrivent des gradins, enfin vous cherchez cette confrontation, et Nicolas Bouchon en parle de manière très ironique et très drôle d'ailleurs.
Mais franchement, sur ce spectacle-là, enfin particulièrement parce qu'il y a cette histoire de cette scène du quatrième acte dans la pièce d'Ibsen, nous on voulait pas spécialement faire participer le public, puisque en fait ce que fait Ibsen, c'est qu'il montre Thomas Stockmann qui fait une conférence et qui se fait interrompre par son frère et ses copains, etc. Et en fait, c'est pas vraiment un débat qui se passe. Ce qu'a fait Thomas Ostermeier, c'est qu'il a tout à coup demandé aux gens pourquoi ils avaient voté pour Stockmann. Donc les gens disaient, mais par exemple, parce qu'il employait des termes comme exterminé, puis il y avait une discussion qui s'ensuivait sur est-ce qu'on peut employer ce mot-là, etc. Alors que c'est une chose qu'on aurait pu faire si Thomas Ostermeier l'avait pas fait. Nous, on aurait assez eu envie de faire une chose comme ça. Après, on s'est dit, non, bon, enfin, il l'a fait, on va pas le refaire. Mais c'est surtout qu'en fait, dans la pièce, c'est pas un débat, c'est une conférence. Et d'une certaine manière, Stockmann, il vole la parole. Enfin, c'est absolument pas un espace démocratique, en fait. Il réquisitionne la parole. En fait, on a été obligé de faire une chose qu'il y a dans la pièce qui est un peu incontournable, c'est un vote. Mmh. Parce que s'il y a pas de vote, il y a pas le cinquième acte. Donc, on demande aux gens de voter si on considère que c'est un ennemi du peuple ou pas.
Moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je me demande si vous, qui êtes le metteur en scène de la pièce, vous l'avez. Est-ce qu'il est ou pas ce Thomas Stockmann, lanceur d'alerte, dénonçant la contamination des eaux de sa ville, l'ennemi du peuple, pour vous, dans votre intime conviction à vous?
Ah ben non. Au départ, c'est plutôt l'ami du peuple. Et il devient un ennemi du peuple à partir du moment, enfin, extrêmement ambigu en tout cas, mais c'est une expression un peu forte, ennemi du peuple. Mais à partir du moment où on regarde ce qu'il y a dans sa tête, et ce qu'il y a dans sa tête, c'est vraiment pas beau, c'est totalement antidémocratique, c'est totalement anti-peuple, c'est d'une violence incroyable, c'est quelqu'un qui passe quand même d'un discours qui pourrait être un discours d'un gilet jaune radical et qui va jusqu'à quelqu'un qui serait à l'extrême droite, enfin dans la même phrase, il mélange tout. Donc effectivement, moi je me méfie énormément de ce type. Mais son combat légitime, évidemment que je suis totalement d'accord avec lui. Voilà. Après, ce qui est terrible, c'est son inconséquence politique. C'est-à-dire qu'il pose les mauvaises questions et il ne s'occupe pas assez du peuple, comme pourrait le faire Brecht s'il avait écrit la pièce, par exemple. Il n'y a pas de combat humaniste du tout dans... Ibsen n'est pas du tout un humaniste.
Et il ne nous donne pas la solution.
Non.
Merci Ibsen. Et mille merci à vous, Jean-François Civadier, d'être venu nous voir pour nous parler d'un ennemi du peuple, pièce d'Henri Ibsen, que vous mettez en scène de manière formidable au Théâtre de l'Odéon à Paris. C'est un spectacle qui fait rire et qui fait surtout réfléchir. Il se joue jusqu'au 15 juin. Ne passez pas à côté, ne passez pas davantage à côté d'une saison au théâtre, émission qui s'écoute à l'antenne, se réécoute sur Internet et même sur Deezer et Spotify, et une émission qui se podcast et se conserve sur le site de France Culture. Chouchou. prochaine, Thierry Gaillon, Valentin, Henri, Vanessa Nadjar, Pierrick Monsigny, Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h sur France Culture. On parle encore et toujours d'écologie avec Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
See you.